Oui, alors donc je suis ici aujourd'hui pour vous parler de ce que le Seigneur fait dans ma vie surtout, mais aussi pour parler de notre groupe maison. Mais avant de commencer, j'aimerais prier pour commencer, si vous permettez. Merci Seigneur. Merci pour cette journée. Nous avons besoin de toi, Seigneur Dieu, en cette journée. Aide-nous. Fortifie-nous afin que nous puissions manifester le fruit de ton esprit, Père. Et aide-nous à marcher tout au long de cette journée dans la paix, l'amour, et que nos regards restent fixés sur toi, Papa, au nom de Jésus. Amen. Et voilà, je suis ici, mais aussi, je sais que j'ai combien de minutes? J'aurais beaucoup de choses à partager avec vous parce que le Seigneur a fait tellement de choses dans ma vie ces derniers temps, mais surtout depuis que je fais partie du groupe Maison, notre cellule, Bill, Marie-André, Arménia, Michel, Lise... Jean-Claude, Salah. Alors, nous sommes vraiment une grosse famille et nous sommes remplis du fruit de l'Esprit. Mes frères et sœurs, c'est tellement, tellement important de faire partie d'une cellule. Si vous n'en avez pas, venez nous voir, venez me voir. Mais ça change toute notre perspective à l'égard de Dieu. On est béni, on est riche dans le Seigneur. Et plus on est ensemble, plus nous avons le goût de partager, d'édifier. Partout où je passe maintenant, je parle du Seigneur. Et c'est bon. Dernièrement, j'ai passé le pain quotidien à ma belle-sœur, qui, quand je priais chez elle, j'allais chez elle. Elle était très fermée, mais aujourd'hui, elle peut vraiment me dire, Valentine, ce matin, j'ai lu le petit pain quotidien. Amen. Amen. Et je veux vous dire que, oui, le dimanche, nous venons ici écouter la parole. Nous venons chercher cette nourriture spirituelle dont nous avons besoin. Mais faire partie d'une cellule, ça fait toute la différence. On s'édifie les uns les autres. On partage nos requêtes. Et puis, c'est très intime, surtout, parce que ce qu'on peut partager dans une cellule, c'est parler ici à l'église. Premièrement, nous avons l'assemblée devient de plus en plus gros. Alors, donc, si nous avons des choses à partager, des requêtes de prière à l'église, c'est un peu plus difficile. Donc, d'où l'utilité de faire partie d'une cellule, vraiment. Et moi, personnellement, je sais que je suis vraiment bénie encore davantage parce que c'est un rendez-vous divin, un rendez-vous d'amour. C'est le plus beau rendez-vous d'amour qu'on peut avoir et se retrouver dans la présence du Seigneur. Alors, lorsqu'on le jeudi, à toutes les deux semaines, nous avons ce rendez-vous d'amour avec notre Papa, notre Père Céleste, et on est vraiment bénie. Alors, on veut vous contaminer aujourd'hui, dimanche, si vous voulez être contaminé, venez vous frotter sur nous et puis appelez-nous et puis on va vous partager vraiment encore davantage ce qu'on vit en cellule. Moi, personnellement, je voudrais partager quelque chose aussi avec vous parce que mon frère Marc m'a téléphoné pour me demander, Valentine, est-ce que tu voulais parler de... ta cellule, qu'est-ce que le Seigneur a fait dans ta vie? Mais je suis toujours très ouverte. Du moment, c'est pour le Seigneur, je suis toujours très ouverte. J'ai dit, je ne suis pas ni froide, ni chaude, ni tiède, mais je suis bouillante pour le Seigneur. Amen! Oui, depuis quelque temps, le Seigneur fait de choses incroyables dans ma vie et je suis toujours touchée. Je suis toujours rempli de l'Esprit Saint. J'avais des inquiétudes de maladie. Puis le Saint-Esprit m'a dit, Valentine, non, même si le médecin te dit, ta maladie, non, je n'ai pas commandé cette maladie-là. Cette maladie existe, mais ce n'est pas ma maladie. Amen. Amen. Nous avons tous des problèmes de santé, mais on ne va pas dire, mon diabète, mon cholestérol. Non, ce n'est pas à nous parce que nous ne voulons pas. Dieu ne veut pas qu'on soit malade. Et j'ai appris, le Saint-Esprit m'a fait comprendre que, oui, l'ennemi va toujours nous faire croire, même si nous avons des symptômes, nous avons des douleurs. Comme moi, j'ai toujours encore des douleurs depuis que j'ai eu cette crise de myélite. Mais ce n'est pas grave, je ne m'arrête pas à ça. Je ne veux pas que mes sentiments, les circonstances de la vie m'empêchent de marcher avec le Seigneur. Je veux continuer à être bouillante pour le Seigneur. Maintenant, je savais que je devais donner ce témoignage, mais j'ai dit, mais Seigneur, donne-moi une parole, donne-moi un message, n'importe quoi, un verset pour pouvoir venir partager avec mes frères et sœurs aujourd'hui dimanche. Jusqu'à hier soir, il n'y avait rien, mais croyez-le ou pas, et quand je me suis couchée, j'ai dit, Seigneur, je t'invite, viens me visiter, j'attends, j'ai hâte que tu me donnes quelque chose de vraiment bénissant aujourd'hui pour mes frères et sœurs. Et croyez-le ou pas, j'ai regardé l'heure, je me suis levée, j'ai regardé l'heure, à 5h moins le quart du matin, le Saint-Esprit est venu encore sur moi. Mais ça coulait, j'étais couchée, ça me coulait. Si je partage ce témoignage avec des gens de l'extérieur, ils vont dire, mais elle est folle. Mais ce n'est pas grave, je suis folle pour le Seigneur. Amen. Maintenant, quand le Seigneur m'a dit, c'était clair, frères et sœurs, mais Valentine, qu'est-ce que je t'ai donné comme mandat ces derniers temps? Quelle mission de paix! N'est-ce pas merveilleux? Il est venu me dire, Valentine, ne casse pas la tête, partage de cette mission, partage cette abondance de pain que le Seigneur me donne à venir partager avec vous tous les dimanches. Frères et sœurs, on a un Dieu qui est vivant. On a un Dieu qui est merveilleux. Et lorsqu'on s'approche de lui chaque jour, j'ai découvert que il y a des années passées, j'ai manqué cet amour, ce temps qu'on passe avec le Seigneur. Plus on passe du temps, j'ai la bouche sèche, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir un petit verre d'eau, s'il vous plaît? Plus on passe du temps avec le Seigneur, plus on a soif de lui. Ma Bible, je la décortique. Ça fait combien d'années que je suis chrétienne, j'ai jamais décortiqué ma Bible autant. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire à travers ce que je suis en train de vivre? Merci beaucoup. Ça fait du bien. Donc, voilà. Vous avez vu, depuis quelque temps, j'apporte du pain. Le Seigneur m'a dit d'en parler, de partager avec vous. C'est arrivé comme ça. Et un jour, je vais à première moisson. Le gérant, chaque fois je rentre, « Bonjour, Madame Valentine. » Je ne le connaissais pas rien du tout. Et puis, comme par hasard, je lui ai dit, « Mais monsieur Kevin, qu'est-ce que vous faites avec ce pain ?» La fin de journée, tout ce pain, il était 6h moins 10 et il restait beaucoup de pain sur les tablettes. Il me dit, on jette ou on met au congélateur. Et puis, j'ai dit, je vais dans une église où il y a des familles défavorisées. Il y a même beaucoup de personnes, même s'ils ne sont pas défavorisés, votre pain est tellement bon. Ça ferait tellement plaisir que de partager. Mais il me dit, mais venez, Madame Valentine, aujourd'hui est vendredi, mais samedi après-midi, on ferme à 6h. 6h moins le quart, venez et on vous dira si vous pouvez venir. Et depuis, comme vous voyez, ça grossit. Ça grossit. Alors, je suis en train de prier, demander au Seigneur, peut-être, est-ce qu'il y a possibilité qu'il me donne une vanne? Parce que bientôt, peut-être, ça me rendrait une vanne pour pouvoir apporter le pain. 4x4 ou n'importe quoi. Et il n'y a pas seulement du pain. Imaginez-vous maintenant, tout le monde veut me donner des vêtements. Ma physiothérapeute, la secrétaire du dentiste, Mémé, la mère de quelqu'un qui vient de décéder, beaucoup, beaucoup de vêtements, la vaisselle, j'ai plein de choses à donner, à partager. Le Seigneur m'a donné cette mission. Et croyez-le ou pas, ce n'est pas une corvée pour moi, j'ai une joie. Je suis bénie à travers ce que je fais pour le Seigneur. Et je veux être sa servante jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Alors, continuez à être bouillant, bouillante pour le Seigneur et vous allez être vraiment gratifié. Il mérite d'être élevé et d'être glorifié chaque jour qu'on se lève, qu'on s'abandonne à lui. Amen.
Alors, il est où le bonheur? Il est là. Et le Seigneur a le sens de l'humour, hein? Parce qu'il savait que je prêchais sur le bonheur aujourd'hui. Et hier, il y avait deux funérailles, hein? Et vous avez connu Escalence, oui? Vous avez connu Fred Tabac, quels sont ceux qui l'ont connu? Ceux qui étaient à l'église de Dédéo. Alors ça, c'est un ancien à l'église, il est fondateur de l'église de Fairview. Et un homme dévoué, il ne peut pas avoir plus dévoué que ça. C'est un peu le mimi de l'église de Fairview. Hein? Il connaissait tout le monde et puis il était accueillant. C'était... Alors, il est où le bonheur dans tout ça? Et l'autre à côté, c'est le fils d'un pasteur vietnamien, Joël, peut-être qu'il y en a qui le connaissent, un petit gars qui était trisomique et qui s'est éteint dans la nuit. Son cœur a arrêté de battre à 8 ans. Et ça fait longtemps que je n'avais pas pleuré comme ça. C'était vraiment un témoignage touchant. Là. C'était. Et si vous lisez, on ne pouvait pas lire, mais. Ce que Joël et Grace, son épouse, avaient demandé, c'est que les gens s'habillent avec des couleurs. Et je suis allé me chercher une cravate. Cravate de couleurs, hein? Parce que à travers le deuil, hein, il savait que ce petit gars-là, qui a souffert dans sa vie quand même, il était maintenant dans les mains du Seigneur. Et wow, ça faisait... à travers les larmes, à travers la peine, il y avait tellement de joie de savoir que le bonheur, il était là, dans la famille. Alors, Seigneur a arrangé ça pour ce matin, on cherche. Il y a déjà eu deux messages hein, sur le bonheur. Et puis, j'ai pensé peut-être résumer, parce qu'il y a des choses là qui... on ne peut pas l'entendre juste une fois, il faut vraiment... le réentendre, puis même me le dire à moi-même, me le prêcher à moi-même avant de vous le prêcher. Alors, on va faire un petit résumé de ce qu'on a vu dans les dernières fois, et puis ajouter quelque chose qui va être vraiment pratique pour qu'on soit dans la joie. Alors, on a vu que le bonheur, c'est un impératif. Hein? Toujours soyez joyeux. Alors, un impératif, ça veut dire que je ne suis pas dans cet état-là. Si je dis « levez-vous », c'est parce que vous êtes assis. Hein? Alors, le Seigneur comprend très bien qu'on n'est pas toujours dans la joie, que ce n'est pas possible sur terre, et lui-même l'a vécu, d'être constamment dans la joie. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Hein? Ça veut dire que l'impératif, là, ça demande une réponse. Je dois faire quelque chose pour décrocher cette joie-là, pour être dans cette joie-là, dans cette position-là. C'est une décision, c'est un choix. Et c'est possible, on a vu, parce que c'est ma nouvelle identité. Nous sommes des heureux élus. C'est dans notre nouvelle nature d'être heureux. C'est un cadeau de Dieu. Hein? Nous sommes condamnés au bonheur à perpétuité, mes frères et mes sœurs. On est condamnés au bonheur à perpétuité, à l'infini. C'est assuré à 100% que nous allons être et que nous sommes dans le bonheur présentement. Et je dirais, il n'y a pas de plus heureux sur Terre. Il n'y a pas de plus heureux dans Cloverdale. Il n'y a pas de plus heureux dans l'ouest de l'île que les personnes qui sont ici ce matin. Pourquoi? Parce que c'est quoi le bonheur? C'est de savoir que nos péchés sont pardonnés. Il n'y a pas de plus grand bonheur sur terre que de savoir que tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai fait de pas correct, c'est effacé, c'est pardonné. C'est ça le bonheur. Hein? Alors, si tu as ça ce matin, tu es plus heureux que les gros riches autour. Là. Il y en a des riches autour. Tu es plus heureux que tout ça. Le bonheur, c'est savoir, mais c'est qui est-ce qui a dit ça? C'est David. David, il était-tu riche? Y avait-tu du pouvoir? Il avait tout pour être heureux. Puis qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a pas de plus grand bonheur que savoir que mes péchés sont pardonnés. Ce que j'ai fait, là, avec le meurtre, l'adultère, C'est pardonné. Il n'y a pas de plus grand bonheur que ça. Amen. Et ce n'est pas fini, hein? Jésus a renversé la notion du bonheur, la définition du bonheur. Je peux satisfaire tous mes appétits, je peux avoir tous mes appétits satisfaits, me payer les plaisirs du monde, jouir de tous les plaisirs du monde, avoir du fun, là, comme le monde peut en donner, mais ça, c'est un malheur à comparer à ce que le bonheur que j'ai en Jésus. Tout le fun, tout le plaisir que ceux qui sont rassasiés, ceux qui sont riches, ceux qui rient, hein? À comparer au bonheur que j'ai en Jésus, ils sont malheureux. Ils sont malheureux. Est-ce qu'on voudrait changer de place? Je pense pas, hein? Parce qu'on a ce cadeau-là, cette grâce-là de connaître le bonheur. Suzanne l'a dit tantôt. Si je colle mes yeux sur moi, sur ma situation, sur mes circonstances, il n'y a pas grand bonheur à trouver là. Je peux gratter en masse là et je ne suis pas sûr que je vais trouver du bonheur. Mais lorsqu'on lève les yeux et on regarde au bon endroit, on risque de décrocher le bonheur. Alors, on a déjà vu ça. On a vu aussi que le bonheur, ça ne veut pas dire être insensible, ça veut dire que je ne ressens plus rien. Hein? Qu'on est insensible à la douleur, puis quelque chose nous arrive, puis on ne ressent plus rien. C'est pas ça, être toujours joyeux. S'il n'y a plus rien qui me touche, puis je ne ressens plus rien, ça s'appelle un cadavre. Hein? Un cadavre. Si je te pince, puis tu ne ressens rien, Benoît va dire « Oups! » Il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Hein? Alors, c'est pour faire semblant. C'est pas « j'ai un beau sourire, mais à l'intérieur, ça file tellement pas. » C'est pas juste une façade, c'est pas juste une belle apparence que j'ai, surtout le dimanche. Hein? On met notre masque et puis tout ce qu'on a enduré la semaine. Non, c'est pas ça. C'est pas être masochiste aussi. Hein? Il y a le culte de... On cultive qu'il faut se flageller, qu'il faut avoir du plaisir à souffrir. Judas a fait ça, hein? Parce qu'il n'était pas capable de trouver le bonheur. Il s'est tourné contre lui-même. Et un dernier point, c'est que ce n'est pas magique. Le bonheur, ce n'est pas magique. Ce n'est pas un coup de baguette ce matin, puis oups, je suis heureux tout à coup, hein? Quelle est la raison pour laquelle Jésus est venu sur terre? Pourquoi est-ce que Jésus est venu sur terre? Pardonner tous mes péchés? Me sauver? Ça, c'est juste la moitié de la médaille. Si on tourne l'autre moitié, c'est quoi que Jésus dit? Je vous ai dit ces choses, la raison pour laquelle je suis venu, non? Afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. C'est quoi la raison pour laquelle Jésus nous a sauvés? Maintenant, je vais à toi et je dis ces choses dans le monde et qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Le but pour lequel Jésus est venu et a parlé, c'est que nous soyons dans la joie. Le but de Dieu pour nous créer et nous créer de nouveau, hein, nous régénérer, c'est que nous soyons dans la joie. Ça, c'est son but ultime. Hein? Et on a vu aussi que c'est un fruit, la joie. C'est le fruit de l'esprit. Alors, comment est-ce que je vais avoir le fruit de la joie? En semant la semence. En croyant à la semence, en croyant à ce que Jésus dit, je vais récolter à un moment donné la joie. Peut-être pas automatique, mais si je pratique cette chose-là, je vais récolter la joie. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent et on pourrait rajouter et elles ont la joie. Elles ont la joie du Seigneur. Ça, c'est sa volonté. Dieu veut que tu sois dans la joie, mon frère, ma sœur, ce matin. Si tu n'es pas heureux maintenant, là, tu ne le seras pas demain. sème, hein? On sème. Des exemples pratiques. Alors, trois exemples pratiques. Ah, ils sont déjà là. J'ai sauté quelque chose. Attends, je viens de pécher, là. Hey, mes péchés sont pardonnés. C'est ça qui se passe? Tu viens de pécher, là. Tu viens de dire une bêtise. Tu viens de faire du mal à quelqu'un. Est-ce qu'un chrétien, automatiquement, est dans la joie? Non, non. Il est dans la quoi? Dans la tristesse, dans la culpabilité, dans la honte. Hein? Je viens de pécher, là. Puis c'est un enfant de Dieu, le péché, tu ne peux pas supporter ça. Tu ne peux pas vivre là-dedans indéfiniment. Hein? Celui qui est né de Dieu ne pêche pas indéfiniment. Dieu va y mettre un stop, en quelque part. Tu ne continueras pas là-dedans. Hein? C'est quoi la semence? Hein? Qu'est-ce que Dieu dit? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Hein? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Alors, je prends ce que Jésus a dit, je confesse mon péché, et qu'est-ce qui se produit? La joie d'être pardonné. Au lieu de continuer à vivre dans la culpabilité, dans la honte, à me taper dessus parce que je viens de faire quelque chose de pas correct. Arrête ça! Dieu t'offre de pardonner tout ça, hein? Et tu vas récolter la joie. Tu crois à ce que Jésus dit, puis tu vas récolter la joie. Bon, quelqu'un vient t'offenser, vient te dire quelque chose de méchant, vient te faire quelque chose de méchant. Tu es dans la joie? Hein? Tu es en train de prêcher, puis là, il y a un téléphone qui sonne. Je dois pardonner à mon Jean-Pierre. Tu es offensé. Comment on se sent quand on est offensé? Ça fait-tu mal? Ça fait-tu mal? Es-tu en colère? Oui, tu es en colère. Et Dieu est en colère aussi. Tu as le droit d'être en colère. Hein? Mais qu'est-ce que Dieu me demande de faire? De pardonner. Pardonner. Ça fait-tu du bien quand tu pardonnes au lieu de continuer à vivre dans dans l'amertume, dans le mépris, cultiver cette haine-là, ce mépris-là, de vivre là-dedans? Yark! Hein? Sème le pardon et obéis et crois à ce que Jésus dit. Puis ce que tu vas récolter, ça va être la joie de pardonner. Y a-tu de la joie quand tu pardonnes à quelqu'un qui ne mérite pas? Oui, pardonner, là, c'est je prends la personne et je la mets dans les mains de Dieu. C'est plus moi qui s'en occupe. Hein? C'est plus à moi à régler son compte. Beaucoup à dire là-dessus, allez faire les forteresses à la fin du mois. Ou bien j'ai peur. Hein? J'ai peur. Il m'arrive quelque chose, là, je suis inquiet. C'est-tu normal d'être inquiet? Parfaitement normal d'être inquiet, d'avoir peur. C'est qu'est-ce que je vais faire avec ça? C'est qu'est-ce que je fais avec? Si je laisse m'envahir, puis me contrôler, puis là, ça devient péché. Mais qu'est-ce que Dieu dit de faire avec cette peur, cette inquiétude-là? Hein? Fais-moi confiance. Hein? Fais-moi confiance. Puis je me relève. Puis au lieu de continuer à vivre dans l'inquiétude, non, stop. Je vais cesser de vivre dans cette inquiétude-là. Non, je ne tournerai pas dans mes pensées toutes ces choses-là. Stop. Non, je choisis de croire que Jésus entend et prend soin de moi. Et je marche dans la paix, dans la joie du Seigneur. Alors, c'est des exemples très pratiques, très simples, hein, qu'on a déjà vus. Maintenant, quelque chose de nouveau pour ce matin. Le contexte dans lequel c'est écrit « Soyez toujours joyeux, car c'est la volonté de Dieu. » Soyez toujours joyeux, soyez toujours joyeux. Est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent? Il y a deux autres éléments. Mais avant ça, il y a... Le focus, c'est pas bon, hein? Il faudrait y voir la prochaine fois, peut-être. Mais juste avant, les versets 14 et 15, ils donnent des conseils pastoraux pratiques. Il donne Et ça ne s'adresse pas aux pasteurs, là, ni aux anciens, là, ni aux diacres. Oui. Hein? Paul écrit aux Thessaloniciens, puis il dit frères et sœurs. Aujourd'hui, il aurait dit frères et sœurs. Il donne des conseils pastoraux. Avertissez, consolez, supportez, soyez patients, prenez garde, recherchez, plein d'impératifs. Quoi faire? Et on parle des petits groupes, là, on parle des cellules. C'est là que ça se passe, c'est pas le dimanche matin. Il y en a un petit peu le dimanche matin, mais c'est dans le soin mutuel, dans le, c'est là que ça se passe dans un petit groupe. Alors, mon frère, ma sœur, je rajoute encore, je pèse encore, tu manques quelque chose. C'est pas, il faut que tu aies une... Non, non, non. Va pas là si le cœur n'est pas là. Mais je te dis, mets ton cœur à bonne place, puis tu vas avoir, tu vas récolter du bon fruit. Fais partie d'un petit groupe. Et après, dans les versets 19 à 22, il donne des directives pour le service. Il dit, n'éteignez pas l'esprit. Ça a sauté, en tout cas. La prophétie, ne méprisez pas, tout examinez, le bon ou le bien retenez, de toute espèce de mal, abstenez-vous. Alors ça, c'est le contexte dans lequel il écrit, je dirais, le trio du bonheur. Hein? En plein milieu, il y a le trio du bonheur. Le contexte de toujours joyeux, c'est trois choses. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses. Non, non, rendez grâce de temps en temps quand ça va bien. En toutes choses, là, c'est, on va le voir tantôt, c'est autre chose. Non, c'est en plein milieu, il y a un trio, hein, une trinité, si on peut dire. Un plat qui est tout garni. Là. Il est jumelé à prier et rendre grâce. Et ça ne décrit pas juste je dirais, un geste qu'on pose. OK, là, je vais m'asseoir, je vais faire mon culte, je vais prier, et puis je vais rendre grâce, et puis je vais être joyeux. Non, il parle plus d'une attitude, hein, d'un état d'esprit, d'un état d'âme. Pas juste un geste que je pose, que je prie, des gestes particuliers. Ça devient ma personnalité, ça fait partie de ce que je suis. Alors, vous allez m'excuser, mais cette semaine, je me suis déguisé, puis je suis allé chez vous. J'ai pris des photos. Puis je n'ai pris à votre travail, là où vous travaillez. Puis je n'ai pris dans la tempête, là, dans le trafic, cette semaine. J'ai pris des photos de vous autres. Voulez-vous voir ce que ça donne? À quoi je ressemble? Honnêtement, là, cette semaine-là, à quoi je ressemble? Et si vous avez de la misère à répondre à cette question-là, demandez donc à votre conjoint ou à votre ami proche, qu'est-ce que tu as l'air? Quand Lise a dit, voyons, tu bougonnes, je ne m'étais pas vu comme ça. Mais est-ce que c'est ça que j'ai l'air? Hein? Si on descend un petit peu, hein? Je suis souvent, soyez toujours, de mauvaise humeur, triste, maussade, ou énervé, soucieux, anxieux, fâché, irritable, enragé, chialeur, mécontent, boudeur, critiqueur, déprimé, découragé, je m'apitoie, j'ai mille raisons de l'être. Mille raisons de l'être. Hein? Soyez sans cesse toujours comme ça. Imaginez l'énergie qui est gaspillée, le temps et l'énergie qui est gaspillée à faire ça. Hein? Puis ça marche, hein? Ça bouge quand on utilise ces façons-là. Et les choses, hein? Tout le monde, hein, comme une moufette, là, tout le monde te fuit. Hein? Non, ça empire, on récolte ce qu'on sème. Hein? Mais ces choses-là qui peuvent être légitimes pour un certain temps, sur le coup, ça devrait produire une faim. Il devrait avoir faim d'autre chose. Hein? Quand on est triste, quand on est inquiet, ça devrait produire en nous une soif, une faim d'autre chose. Et là, on peut se commander un trio. On commande un trio. Hein? Quand on a faim, je sais qu'il est 11h15, ça touche une corde sensible, tant mieux. On a déjà vu le toujours joyeux, ça c'est une corde. Hein? Et on ajoute le prier sans cesse, on va voir tantôt rendre grâce en toutes choses. Le prier sans cesse. Hey, là, j'en apprends une bonne. Hein? Prier sans cesse. Que prier, là, c'est comme les trois cordes là, qui sont tissées ensemble pour avoir la joie, prie. Puis prie sans cesse. Tu vas avoir la joie sans cesse, prie sans cesse. Et c'est une façon de convertir ces mauvaises humeurs-là, là, hein? En soupir inexprimable. Hein? Dans Romains, il dit, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. La prière, c'est plus que des paroles qu'on va prononcer. C'est des paroles qui viennent du cœur, là, des soupirs inexprimables. Il y en a peut-être qui vont dire que c'est comme une forme de parler en langue, là, où c'est pas des mots, mais il y a comme des soupirs inexprimables qui montent jusqu'à Dieu, puis que l'Esprit de Dieu transforme en prière. Hein? Louise, tantôt, là, pour ses petits-fils, puis un soupir qui vient du cœur. C'est ça, la prière. Et de l'autre côté, il dit, ne vous inquiétez de rien, l'inquiétude, mais à la place de continuer à vous inquiéter, qu'est-ce qu'on fait? En toute chose, par la prière, la supplication, avec des actions de grâce, oups, le trio qui revient, faites connaître à Dieu vos demandes et vous allez toutes recevoir ce que vous voulez tout de suite. C'est quoi le fruit? La paix de Dieu. Le but de la prière, là, c'est ça. C'est pas de dire à Dieu tout ce qu'il devrait faire, comme moi je pense qu'il devrait faire. Le but de Dieu, c'est de m'accorder avec ce que Dieu dit, ce que Dieu pense. Hein? C'est pour réciter une longue liste d'épiceries, de requêtes. Puis me relever comme si de rien n'était, comme si je n'avais pas prié. J'étais jeune pasteur. Une église dans les années 80, c'était explosé au Québec, l'Évangile. Hein? Et ça, c'est Benjamin, si vous avez connu Benjamin, c'est notre dernier. Oui. On avait fait la une du journal. On avait acheté ce bâtiment-là, 45 000 $ avec un... Il y a un rajout en arrière, là, il y a 200 places là-dedans, il y a trois étages. On avait mis peut-être 60 000, c'était tombé du ciel. Est-ce qu'on peut prier pour ça? Hein? Mais ce jeune pasteur-là, avec une église qui explose, plein de bébés sur les bras, il en avait déjà quatre à la maison. Et il y a une centaine de baptêmes en quelques années, là. Tous des jeunes croyants, là. Alors, le jeune pasteur, je ne vous mens pas, là, j'arrivais le matin dans mon bureau, je priais toute l'avant-midi. Je priais toute l'avant-midi. Il y avait tellement de requêtes, tellement de besoins. Et je sortais de mon bureau complètement épuisé. Épuisé à terre, j'allais me coucher. J'étais écrasé sous le fardeau, exténué complètement. Et là, j'ai compris, bon, que je ne priais pas vraiment. J'ai compris quelque chose. Je ne priais pas vraiment. Qu'est-ce qui manquait? Le sans cesse. Le sans cesse. Le sans cesse, ça veut dire jusqu'à ce que mon attitude change. Puis que je me relève, puis que je marche dans la joie, puis que je marche dans la paix. Une fois que j'ai prié, je me relève, je marche dans la paix et je marche dans la joie. Si je ne fais pas ça, je pêche. Je pêche. Je ne fais pas la volonté de Dieu. Je continue à m'inquiéter comme si je n'avais pas prié, comme si Dieu ne prenait pas soin de moi. Je vis dans le contraire de la foi, c'est la peur. Hein? J'ai compris ça. J'ai compris que prier, là, c'est jusqu'à temps que la mauvaise humeur elle soit engloutie par la paix de Dieu ou la confiance que Dieu a entendu ce que je viens de dire. Je me relève, puis Seigneur, je viens de te prier, je te fais confiance. Quelques années plus tard, j'ai été des mois suite à un drame familial, vraiment une déception terrible. Et j'en ai voulu à Dieu parce qu'il ne répondait pas à mes prières. J'avais beau prier, j'avais beau soupirer, j'avais beau intercéder. Il n'entendait pas. Hein? Il n'y a pas de réponse au numéro que vous avez composé. Au contraire. Au contraire. Est-ce que je faisais l'exercice de prier? Je suis pasteur, je payais pour ça. Hein? Oui, je faisais l'exercice de prier, mais est-ce que j'y croyais? Je ne croyais plus. Je ne croyais plus que Dieu m'entendait. Je priais dans le vide. Jusqu'à un jour, il y a une parole qui m'a vraiment réconcilié avec tout ça. Dans Matthieu dit, en priant, ne multipliez pas les vaines paroles, des prières, des vraies. Comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Si la puissance est dans mes mots que je dis. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Alors, la prière, c'est pour qui? Pour Dieu? Hein? La prière, c'est pour moi. C'est pour que j'accorde mes pensées, j'apporte ma volonté, mes désirs avec ce que Dieu veut. Jésus l'a fait au jardin de Gethsémané. Hein? Y a-tu prié? Hein? Y a-tu pleuré? Y a-tu dégoûté du sang? Y a prié. Puis quand s'est relevé, dans la paix, allons-y. Hein? Venez-vous-en, on s'en va. Je marche dans la volonté de Dieu. Je marche dans la paix de Dieu. Alors, accorder mes pensées avec, c'est ça la prière. Sans cesse, pour moi, ça veut dire jusqu'à ce que la paix ou la joie de Dieu m'envahisse. Faites connaître à Dieu vos besoins avec des prières, des supplications, des actions de grâce et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs. On ne se relève pas, mon frère, ma sœur, on ne se relève pas de la prière sans avoir saisi cette paix-là. Puis si je marche 5 minutes, puis je retourne dans la colère, ou je retourne dans l'inquiétude, ou dans la peine, stop, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Je vais marcher dans la foi. Je marche dans la foi que Dieu est au contrôle, que Dieu sait ce qu'il fait, puis j'y vais par là. Dernière chose, trio. Alors, c'est quoi le trio? Joyeux, prier, yes, rendre grâce. Là, on tombe dans une chose de plus. Prier, c'est une chose, mais rendre grâce en est une autre. Hein? Rendre grâce en toute chose. Rendre grâce en toute chose. Vous connaissez Corrie ten Boom? Hein? Elle est avec sa sœur Betsy. Je pense que c'est elle. Ici qui est couchée là. Elle est dans un camp nazi, un des pires, à Ravensbrück. Des baraques qui sont pleines à craquer. Mais le pire, c'est infecté de puces. Des piqûres, hein? Je ne sais pas si ça a eu des piqûres de puces, là, des fois. On pense juste à ça, hein? Ça nous ça nous rend fous, là. Hein? C'est infecté de puces. Et dans leur méditation, ils lisent 1 Thessaloniciens 5:18, qui dit quoi? 1 Thessaloniciens 5:18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu à votre égard. Seigneur, qu'est-ce qu'on fait ici? Incapable de faire ça. Il était bloqué là. Il n'était pas capable de faire cette prière-là. Finalement, avec un minimum de foi, ils finissent par le dire. Ils finissent par murmurer, « Merci Seigneur pour les puces. » Et les puces ont disparu? Tu as volé mon punch, là. Étonné, différent des autres camps, là, ils pouvaient parler de Dieu, ils pouvaient prêcher, ils pouvaient chanter. Ils n'étaient jamais dérangés. Il n'y a pas un garde qui voulait rentrer dans cette place-là à cause des puces. Alors, ils avaient une pleine liberté. Alors, ils gardent les puces. Dans le plan de Dieu, ils servaient à quelque chose. Et ils ont-ils bien fait de rendre grâce? Oui. Rendre grâce, c'est un choix que je fais. C'est un choix que je fais. J'ai le choix de rendre grâce. C'est quoi l'opposé de rendre grâce? Se plaindre, maudire, ingratitude. On va appeler ça de même. Grâce, ingratitude. Hein? Synonyme. Là, il me manque, en tout cas, je vais lui donner les synonymes. Tout le temps, mécontent, vexé, contrarié, frustré, insatisfait, grognon, bougon, chialeux, critiqueux, grincheux, plaignard, avec 1000 raisons de l'être. La file est longue. Hein? Parce que celui qui cherche, trouve. Tu cherches des raisons de te plaindre, tu cherches des raisons de... Hein? Tu vas en trouver. Et le fin fond du problème, c'est... La personne ingrate, là, le fond du problème, c'est l'orgueil. Hein? Je suis centré sur moi-même. Et c'est pour ça, un orgueilleux, c'est impossible à un orgueilleux de dire merci, d'être reconnaissant. Impossible. Peut-être qu'il va le dire des lèvres, peut-être qu'il va le dire, mais pas du cœur. Et si ça rapporte quelque chose, il va dire merci. Mais c'est impossible. S'il a réussi dans la vie, c'est de la faute à qui? À moi. Hein? À moi la gloire, je m'adore. Et si je ne réussis pas, c'est la faute des autres. Hein? Alors, ou bien je vais me taper dessus, puis là, je vais m'apitoyer. Une bonne nouvelle, un chrétien qui est né de nouveau, il a le choix de dire non à sa chair ingrate, à sa chair orgueilleuse, à sa vieille nature. Tu as le choix de dire non à tout ça et dire oui à l'Esprit de Dieu. Si tu cherches, tu vas trouver 1000 raisons de rendre grâce à Dieu. Couche le soir, tu t'inquiètes, commence à trouver des raisons de rendre grâce à Dieu. Ça va changer ton attitude, ça va changer ton... Hein? Quelqu'un dit, c'est comme la respiration de l'âme. Rendre grâce, c'est la respiration de l'âme. Je me mets à vivre. Je me mets à respirer. Mon nouveau cœur se met à respirer lorsque je me mets à rendre grâce dans les pires situations. Hein? Je m'élève au-dessus de la nature humaine et Paul, il a dit, c'est lui qui a dit ça, rendez grâce en tout, est-ce qu'il l'a fait? Je pense que oui, hein? Hein? Y avait-tu des raisons de se plaindre? C'est des raisons de se plaindre. On se met dans sa peau deux minutes, là. Il prêche la parole, hein? Et puis, il y a comme un réveil dans la ville. Là, ils se saisissent de lui et de Silas. Ils les traînent sur la place publique. La foule se soulève contre eux. Ils arrachent leurs vêtements. Ils les battent de verges, de coups. Ils les jettent en prison. Ils leur mettent des cèpes aux pieds. Alors, soyez toujours joyeux, qu'ils disent. Hein? Qu'est-ce qu'on aurait écrit, nous, comme épître? Hein? Je me suis comme payé la traite. Hein? J'avais le droit d'être fâché. Oh Seigneur, j'aurais donc dû me la fermer, moi puis ma grande gueule. J'ai manqué mon coup. Encore un autre échec, je ne l'ai pas, l'affaire. Je ne dois pas avoir le don d'évangéliser. Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je me suis mis dans ce pétrin-là? Seigneur, tu es supposé m'aider, me protéger. Je me sens abandonné. Pourquoi tu les laisses me maltraiter comme ça, moi, ton apôtre Paul? Hein? Qu'ils aillent tous au diable. C'est rien qu'une gang de païens. Je t'obéis, puis voilà ce que ça donne. Il me semble que je serais bien plus utile ailleurs qu'enchaîné. Le monde, l'Église, a bien plus besoin de moi dehors qu'enfermé ici. Bon, Silas, il faut sortir d'ici à tout prix. Il faut trouver le moyen de s'évader. Je suis fini. Pas moyen de rien faire. Le pire est sûrement à venir. Je suis à leur merci. Ils vont nous. Je suis tanné de me dévouer. Ça ne donne rien. J'en ai assez fait. Je vais laisser la place à d'autres. Ouch, ça fait trop mal. Je ne suis capable d'endurer ça. Je démissionne. L'épître selon la chair. L'épître selon... C'est quoi l'alternative qu'on a? C'est quoi que Paul a fait avec Silas? Ils viennent de se faire battre, là. Ils n'ont pas de succès pantoute, là. Hein? L'Évangile est fini, là. En tout cas, selon les apparences. Et ils prient puis ils chantent des louanges. Ils n'ont pas attendu pour louer Dieu, pour rendre grâce, que Dieu change les circonstances, que Dieu les sorte de là, que Dieu change les autres autour. Ils n'ont pas attendu ça pour être dans la joie, pour être dans l'action de grâce. Enfin, on va pouvoir être heureux quand le Seigneur va répondre, quand tout va bien aller, là. Là, on pourrait être heureux. C'est ça? Ça, c'est pas l'Évangile. Hein? On a, nous, les chrétiens, on a une espérance au-dessus de ça, surhumaine. Hein? Je peux être heureux même dans cette situation-là. Alors, en tout, prier sans cesse, c'est jusqu'à ce que j'ai la joie maintenant. Je ne me relève pas tant que je n'ai pas la paix ou la joie. Ça n'a pas rapport avec les circonstances. Ça n'a pas rapport avec les autres, la paix, la joie. Ça a rapport avec qui? Ma relation avec Dieu, la confiance que je fais dans ce que Dieu dit, que ce que je mets dans ce que Dieu dit, dans ce que Dieu fait. Hein? Combien de fois j'ai dit, j'ai pas fait confiance à Dieu, combien de fois j'ai dit, j'aurais donc dû faire confiance au Seigneur. Pas si c'est pareil, là. J'aurais donc dû faire confiance au Seigneur. Et quelques fois, j'ai dit, j'ai-tu bien fait, de plus en plus, en train de dire, j'ai-tu bien fait de faire confiance au Seigneur. Au lieu de passer la nuit à ruminer toutes sortes d'inquiétudes, de colère, de peur. Non, Seigneur, je te fais confiance. Puis le diable vient frapper à la porte, là. Non, ça ne vient pas de Dieu, ça. Dehors. Moi, je choisis de faire confiance au Seigneur puis d'avoir la paix. Hein? Y a-tu bien fait de faire confiance au Seigneur, de rendre grâce? Hein? Y a-tu bien fait? Hein? Tremblement de terre. Tremblement de terre, tu sais, c'est Dieu là, qui intervient. Les liens sont rompus, ça brise les chaînes. Le geôlier se convertit avec sa famille. L'église de Philippe est née, c'est une nouvelle église avec... Il y avait Lydie aussi avec sa famille qui ont formé un petit groupe, une cellule. Et c'est comme ça que l'église de Philippe est partie. Et Philippe, c'est la ville principale en Macédoine. Les magistrats qui viennent s'excuser, qui viennent les libérer, ils ont-ils bien fait? Hein? Il était où le bonheur? Il est où le bonheur? L'action de grâce? Dans la prière? Hein? Alors, j'ai un choix. Dire non à ma chair ingrate, orgueilleuse, qui se plaint, qui se lamente, et qui a mille sujets de se plaindre, ou bien me lever, hein? Me lever, puis dire, oui, à l'Esprit qui habite en moi, et Seigneur, je te fais confiance. Alors, on le pratique? On a un choix. On a un choix devant nous. Il y a deux portes. D'un côté, c'est la louange, l'action de grâce, la prière. De l'autre côté, c'est les lamentations, mais on ne va plus là. C'est terminer les lamentations. D'accord? Terminé. Puis si je me surprends à me lamenter aujourd'hui, là, je confesse mon péché. Non, Seigneur, je ne retombe plus là-dedans. J'arrête de chialer. Et je vais trouver la place, une raison de me réjouir. Amen.
Amen.
On peut prier. Seigneur, on a vu tantôt que tu es venu ici pour que nous soyons dans la joie. Et Seigneur, s'il y a quelqu'un ici ce matin qui ne t'a pas connu, Seigneur, qui n'a pas connu ce Jésus à qui on peut faire confiance et dire, OK, OK, Jésus, je te fais confiance. Seigneur, je t'apporte tous mes péchés. Je t'apporte tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai fait de pas correct. Et j'ai confiance que tu me pardonnes maintenant. Je reçois ton pardon maintenant. Je suis ton enfant, bien-aimé, et tu vas prendre soin de moi. Seigneur, j'ai peur, il y a beaucoup d'inquiétudes, il y a beaucoup de choses qui me tracassent. Et j'ai raison. C'est inquiétant. Mais je fais ce pas de foi-là de te faire confiance. Je vais me relever, Seigneur, puis je vais marcher dans la joie, dans la paix, que tu as entendu ma prière et que tu t'occupes de moi, peu importe ce qui arrive. Je ne laisserai pas cette inquiétude-là m'envahir au point de me contrôler. Et Seigneur, s'il y a quelqu'un qui m'a offensé, sûrement qu'il y a quelqu'un qui m'a offensé. Et Seigneur, au lieu de vivre dans l'amertume, de lui en vouloir, en cachette ou pas en cachette, Seigneur, je choisis de lui pardonner ce matin. Je choisis, Seigneur, de suivre ce que tu nous dis et de recevoir cette vie en abondance, la joie que tu as pour moi. Et je veux vivre, je veux essayer ça cette semaine, Seigneur. Et le pratiquer de plus en plus. On le pratique déjà, mais je veux le pratiquer encore de plus en plus. Pour que, Seigneur, ton nom, le nom de Jésus, il soit éclatant. Que je déborde, Seigneur Dieu, de cette joie-là, de cette paix-là qui est surhumaine et que nos Québécois ont tellement besoin dans le quartier. Ils ont besoin de voir cette joie et cette paix au milieu des tribulations. Amen.